Anouet Simpoma, bonjour. Vous êtes activiste, journaliste et commissaire d'art, également membre de l'ASBL BAMCO, qui est un comité féminin et afrodescendant pour l'interculturalité et contre le racisme. Mais dites-moi, d'où vient le racisme?
Bien, tout d'abord, bonjour et merci de m'avoir invité dans cette émission. Alors, d'où vient le racisme? Le racisme a des origines diverses. Il y a d'abord une origine tout à fait psychologique qui serait de dire qu'en cas de manque de ressources ou de ressources restreintes, eh bien, l'être humain va spontanément considérer celui qui vient d'ailleurs comme un intrus, comme quelqu'un susceptible de lui voler ou ses ressources. En second lieu, aujourd'hui, on peut analyser la société actuelle et analyser le racisme aussi, pas simplement comme un réflexe de défense par rapport aux ressources qui seraient limitées, mais aussi comme le résultat d'une construction sociale. Quand on parle de racisme, on parle souvent de blancs et de noirs, mais des noirs, moi, je n'en ai jamais vu. J'ai la peau brune et je n'ai jamais vu d'être humain avec la peau noire. Et on ne parle jamais de la peau blanche non plus, on parle des différentes carnations. Exactement, c'est une construction. Et alors, pour parler de où vient le racisme, d'où vient cette construction sociale, eh bien, dans le cas précis de la Belgique, mais des autres puissances coloniales aussi, eh bien, il s'agit d'une construction à un moment qui a été nécessaire pour pouvoir justifier un système de prédation, un système de violence pour pouvoir exercer un contrôle sur les ressources. Puisqu'on parle de ressources, eh bien, il s'agit bien de cela. Les Belges sont partis au Congo. Léopold a dû justifier son entreprise coloniale par de la philanthropie et on a dit qu'on allait sauver tous ces gens qui vivaient tout nus dans la forêt et comme des sauvages et il fallait les évangéliser. Donc le racisme, il vient de cette construction-là qui est toujours présente aujourd'hui. Au 15e siècle, au 16e siècle, le racisme n'existait pas en Europe. Il y avait des Noirs dans les différentes cours royales d'Europe. Il s'agit vraiment d'une construction donc voilà, qui est apparue au 19e siècle et la science, les sciences naissantes aussi qui sont apparues à ce moment-là ont servi donc de justificatif scientifique, pseudo-scientifique, mais scientifique à l'époque, pour justifier et pour expliquer la supériorité de la prétendue race blanche sur toutes les autres races, pas uniquement sur la race. Bien, par exemple, dans le cas de l'anthropologie, il y avait l'anthropométrie où on mesurait la taille des crânes des Africains et alors on expliquait soi-disant scientifiquement qu'ils étaient moins intelligents parce qu'ils avaient le crâne plus petit ou le menton proéminent. C'est le début aussi de la photographie anthropométrique. Et en fait, le lien, quand on parle aussi des origines du racisme, d'où vient le racisme, je trouve qu'il est aussi important de faire le lien entre le passé et le présent. Puisque, donc on le dit, le racisme aujourd'hui est le résultat d'une construction, peut-être d'un petit réflexe identitaire ou de rejet de ce qui semble différent, mais il est surtout le fruit d'une construction sociale qui dit que d'un côté il y a des noirs, d'un côté il y a des blancs. Et cette construction sociale, elle est le fruit de toute une propagande coloniale qui date du 19e siècle, qui est vraiment l'époque des grandes, enfin ce que les Occidentaux ici ont appelé découverte, où ils sont allés en Afrique. Et finalement, Léopold, quand il a justifié son entreprise coloniale, c'était vraiment pour des raisons philanthropiques, alors que tout le monde sait qu'il l'a fait pour des ressources, pour la question des ressources.
Et comment ces représentations traversent les époques et sont maintenues en...
Ces représentations traversent les époques, ont traversé les époques et sont maintenues aujourd'hui par différents moyens. Il y a bien sûr toute une question de représentation mentale qui sont véhiculées par l'éducation, simplement. Si quand on rentre dans une femme noire ou une famille de noirs entre dans un lieu comme par exemple le pain quotidien de l'avenue Louise où il y aura d'autres personnes qui sont attablées en famille, personnes d'ascendance belge donc, sont attablées en famille et que les parents ont des réactions de rejet, de surprise, eh bien les enfants vont intérioriser ces comportements. Ça c'est déjà la première chose. Si les seuls noirs que ces enfants ont vus depuis la naissance occupent des positions subalternes, c'est-à-dire la noire c'est la bonne, eh bien, ils vont intérioriser cela et ils seront très surpris lorsque le jour où ils rencontreront une femme noire dans une position de professeur, par exemple. On intériorise ça par le vécu au niveau de la société. Et finalement, il y a aussi le fait que les femmes noires, par exemple, pour des postes comme on parlait de professeurs de maternelle ou de primaire, il y a très peu de femmes afrodescendantes qui s'intéressent à ces métiers-là, parce que dans mon milieu personnel, les quelques femmes qui l'ont fait, même lorsqu'elles ont terminé les études, ont choisi de ne pas travailler dedans parce qu'il y avait de véritables barrières à l'engagement, alors qu'on sait qu'il y a pénurie de professeurs dans ces domaines-là. Mais on ne veut pas d'avoir un professeur pour des jeunes enfants, on veut bien des nounous noirs, mais on ne veut pas des professeurs. Donc voilà comment les représentations sont encore présentes et continuent à renforcer finalement le racisme aujourd'hui. C'est aussi le fait de toujours vouloir maintenir les personnes d'une certaine catégorie sociale, en l'occurrence ici on parle des Noirs, dans certaines positions. La manière dont les Noirs sont représentés dans les médias. Quand on voit un homme noir dans un film, c'est jamais l'avocat qui va sauver les gens. C'est toujours le méchant, le violeur, le bandit. Le voyou, c'est le noir, c'est celui qui fait du hip-hop et qui chante. C'est pas celui qui réfléchit, c'est pas le scientifique, c'est pas le savant. Voilà, toujours surreprésenté dans le sport et la musique. Un noir, c'est bien pour divertir. Donc voilà, il y a ces représentations-là, il y a tous ces métiers aussi dans lesquels les femmes noires vont être surreprésentées. C'est-à-dire qu'une femme noire qui est infirmière ou aide-soignante, c'est considéré comme quelque chose de positif. Mais on ne la voit pas directrice de banque. Et j'y arrive, il y a aussi le rôle, finalement, que tous ces anciens musées coloniaux ethnographiques en Europe ont joué dans la création des représentations négatives par rapport aux Noirs. Et il y a tout ce rôle que ces musées aujourd'hui tentent d'avoir. On va parler du musée royal de l'Afrique centrale en Belgique, par exemple, que ce musée devrait avoir. C'est-à-dire qu'on a vu une évolution dans la science de l'anthropologie. Donc au départ, c'était une science qui a été créée pour justifier l'entreprise coloniale, pour objectiver l'Africain. Et pour qu'on l'étudie finalement comme un objet qui fait partie de un objet à exposer finalement, un objet à collecter, à exposer. La nouvelle version du zoo humain. Et donc, les musées ethnographiques ont commencé, à un moment, les anthropologues dans les années 70-80 ont commencé à réfléchir à toutes ces questions, à les remettre en question, et l'anthropologie a changé. Et donc, dans les années 80, la plupart des musées ethnographiques sont devenus des vitrines un petit peu de la diversité culturelle. C'est-à-dire que aussi tous ces immigrés qui étaient arrivés au départ pour travailler et dont on pensait qu'ils allaient retourner chez eux une fois leur travail terminé, se sont installés, sont restés. C'est comme les Congolais en Belgique. Les Congolais avaient le droit de venir pour faire des études, mais on n'attendait pas d'eux qu'ils restent. Finalement, on s'est retrouvés avec toutes ces populations d'immigrés et de personnes considérées comme autres qui vouaient à s'installer et à rester vivre en Europe. Donc, il y a eu la question de que va-t-on faire de tous ces gens ? Eh bien, le musée ethnographique ou colonial s'est positionné comme relais pour justement jouer ce rôle de faire accepter la diversité culturelle dans le pays. Et ça, c'est une réalité, comme finalement celui qui détient le patrimoine d'origine de ces personnes-là. C'est celui qui peut leur expliquer finalement leur culture d'origine qu'ils ne connaissent pas. Et dans ce cadre-là, le musée a aussi un rôle très important. Il continue à jouer un rôle dans la représentation négative qu'on peut avoir des Noirs. Il tend, et certainement que c'est très... vouloir se remettre en question, mais tout se fait en surface. Et en fait, tous les musées ethnographiques... Voilà, c'est cosmétique, exactement. Et ça, c'est la position de tous les musées ethnographiques en Europe. C'est-à-dire qu'ils prétendent, et peut-être qu'ils sont emplis de bonne volonté, vouloir... se remettre en question, mais en réalité la seule chose qu'ils font, c'est légitimer leur pouvoir. En quoi sont-ils plus légitimes que nous pour parler de nos objets? Pourquoi systématiquement ce sont des Blancs qui expliquent aux Noirs leur culture? Comment se fait-il qu'il n'y a aucune politique qui est mise en place pour réellement faire travailler des personnes d'ascendance africaine, les personnes réellement concernées, avec des conditions acceptables dans ces structures? Je veux dire, aujourd'hui, le Musée royal de l'Afrique centrale, puisque on est en Belgique, la manière dont il va faire intervenir les personnes d'ascendance africaine dans la nouvelle exposition, eh bien, c'est par exemple en engageant des guides d'ascendance africaine. Alors, les guides, quand ils disent engagés, moi, je ne sais pas.
C'est de la figuration, en fait.
C'est de la figuration, parce que ces guides ne sont pas engagés, ce sont des guides freelance. Le statut freelance n'existe pas en Belgique. Ça veut juste dire que tu es au chômage et que, de temps en temps, on t'appelle pour travailler et c'est ponctuel. Et le jour où tu es malade ou tu as un accident en route, tu n'as pas pu faire la visite, eh bien, tu n'es pas payé. Et donc, de continuer à montrer des Noirs dans ces positions subalternes, au lieu de réellement penser à une politique qui pourrait permettre un directeur du musée de l'Afrique centrale d'ascendance africaine, quelqu'un qui connaît l'Afrique, hein, pas quelqu'un qui débarque et qui voyage en Afrique pour la première fois alors qu'il est déjà nommé directeur. Hein. Tant qu'on ne pense pas à des choses comme ça, eh bien exactement, c'est du vernis, c'est du...
Alors pourquoi parle-t-on de la nécessité de décoloniser les esprits ?
Eh bien oui, on parle de la nécessité de décoloniser les esprits parce qu'on est tous complètement embués dans cette imagerie coloniale. On est tous des enfants de ces stéréotypes coloniaux. Toi, moi, ma maman, mon papa, mes frères, mes sœurs, mais les Belges, et les autres Belges aussi. Et quand je dis simplement « et les Belges », bien voilà, ça c'est un reste de la décolonisation de mon esprit. Je suis Belge. Voilà, et c'est nécessaire pour l'avenir parce que sinon on risque d'arriver à une situation explosive. Aujourd'hui, l'étude, merci à la Fondation du Roi Baudouin qui a financé cette étude qui prouve aujourd'hui que les personnes d'ascendance rwandaise, congolaise, burundaise aujourd'hui en Belgique subissent des discriminations à l'emploi, des discriminations au logement. Pourtant, malgré toutes ces discriminations qu'elles subissent, ce sont les personnes qui sont les mieux éduquées, c'est-à-dire qu'il y a 60 à 80% de cette population qui est avec des diplômes universitaires. Pourtant, quand il s'agit des chiffres du chômage, là où les autres populations européennes sont à 15 ou 20%, eh bien, les populations d'ascendance de l'Afrique centrale subsaharienne, eh bien, elles sont à 40% du taux de chômage. Donc, cette étude montre qu'il y a un problème. Ce que cette étude ne montre pas, c'est d'où vient le problème. Ces disparités sont le fruit de toute une construction identitaire où on veut garder les Noirs dans une position subalterne parce que c'est une habitude, parce qu'on veut le garder comme le bon pote, le bon sauvage, celui qui nous divertit, mais on ne peut pas le prendre au sérieux. Et si on continue dans ce clivage-là, eh bien, à un moment, il va y avoir des révoltes. Je veux dire, les Noirs ne vont pas continuer à accepter d'être maltraités. C'est pour ça qu'on est là. C'est aussi pour ça qu'on parle aujourd'hui et qu'il y a toutes les manifestations. Aujourd'hui, s'il y a une place Lumumba qui va être inaugurée ce 30 juin à Bruxelles, eh bien, c'est le fruit d'années de revendications. Ça fait plus de 15 ans que les associations africaines revendiquent. Il y a deux places Patrice Lumumba en France. En Belgique, il n'y en a encore aucune. Et on le voyait bien dans le débat de dimanche dernier, les associations des anciens colons manifestent tout à fait contre cette place parce qu'ils prétendent que Patrice Lumumba serait un truand. Et que eux... Alors, ils avancent toujours l'argument que eux n'ont rien fait de mal au Congo. Au contraire, ils auraient construit des routes,
des kilomètres de routes.
Ce qu'ils oublient de dire, c'est que ces kilomètres de routes ont été construits en remercie de l'effort de guerre des Congolais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Avant cela, le gouverneur de la colonie au Congo pleurait pour que l'argent qui était soutiré donc à l'État indépendant du Congo. Les ressources étaient directement soutirées et amenées ici en Belgique et l'argent restait en Belgique. Mais après cet effort de guerre, le gouverneur avait des arguments pour dire « Mais maintenant, vous devez aussi faire quelque chose pour votre colonie parce que sinon, moi, je ne peux rien faire. » Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à construire des routes. Ces routes n'étaient construites que pour faciliter le transport des ressources au port. Il ne s'agissait pas de créer des connexions au Congo. Et puis finalement quoi ? S'il y a quelqu'un qui vient chez moi, qui me viole, qui me maltraite, qui m'empêche d'avoir ma liberté, est-ce que je dois le remercier d'avoir fait des travaux et d'avoir repeint les murs ? Il y a un moment où il faut arrêter. On est en 2018 et on est obligé d'entendre des arguments pareils à la télévision. Ces gens-là devraient être considérés comme des criminels. On ne devrait pas leur laisser le droit de parole. Il y a un moment où le droit de parole, ça fait 200 ans qu'ils l'ont. Il faut arrêter.